Pourquoi est-ce que ça doit passer par une élection présidentielle? C'est ça la question que je vous pose.
Parce que pour passer à la 6ème République, de fait, avec Macron, j'y crois très peu.
Tu es députée de la 2ème circonscription du Val-de-Marne. Tu es la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, responsable du programme de la France insoumise et coprésidente de l'Institut La Boétie.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Encore une fois, journée de mobilisation aujourd'hui. On a commencé l'émission par ça, je voulais t'interroger dessus. Tu as manifesté aujourd'hui à Paris. Comment ça s'est passé pour toi?
J'ai manifesté en deux endroits. D'abord dans ma circonscription, à Choisy-le-Roi. Parce qu'il y a aussi vachement de mobilisation locale, en fait. C'était déjà le cas le 10, je suis allée devant Sanofi dans le Val-de-Marne. Et donc aujourd'hui, il y avait une mobilisation pour les agents territoriaux de la ville. Voilà. Okay. C'est pour dire qu'il y avait aussi des manifestations dans des beaucoup plus petites villes. Et en effet, aussi à Paris, où là, c'était... très massif. Alors peut-être certains d'entre vous y étaient aussi aujourd'hui.
Oui, on y était tous.
Voilà, bon, c'était extrêmement impressionnant. La CGT et d'autres syndicats disent 1 million de personnes. Donc évidemment, c'est très important. Les autorités ministères de l'Intérieur disent moitié moins. C'est très important et je pense que on est dans un moment de mobilisation plus largement. Parce qu'en fait, c'est une séquence entre le 10, aujourd'hui le 18, le 21, il y a déjà des rendez-vous, notamment un rendez-vous à République par les organisateurs du mouvement Bloquons Tout. Et on peut penser que ça va continuer pendant la suite du mois de septembre, parce qu'il y a une vraie colère. Quoi.
On va parler de la suite de ce mouvement. Tu l'as dit, on est dans une phase de mobilisation. C'est particulièrement vrai pour la France insoumise, qui est dans une phase de mobilisation autour de votre nouveau totem, qui est la destitution du président de la République.
C'est pas vraiment un nouveau totem.
Non, c'est vrai que là, vous avez mis un coup de collier depuis la rentrée, quand même.
Disons que c'est la troisième motion destitution qu'on dépose à l'Assemblée nationale. La première, c'était il y a un an, donc c'est pas vraiment une nouvelle lubie, on va dire. Ça fait un moment qu'on estime que le problème est à l'Élysée, c'est clair. Parce qu'en fait, bon, on a eu une dissolution, on a eu des élections législatives, on s'est énormément mobilisé, notamment les électeurs de gauche, et pour beaucoup des gens qui n'allaient plus voter. Et donc, ça a généré un espoir immense. Et c'est le troisième Premier ministre illégitime que nomme Macron. Donc là, on est dans une crise démocratique quand même enquistée, très profonde. Et je pense que c'est pour ça que les mobilisations, elles sont puissantes. Parce que les gens se disent, ça peut pas durer comme ça. La seule perspective qu'il offre aux gens, c'est de faire des réformettes, parce qu'en réalité, il fera pas de politique extrêmement ambitieuse vu comment est composée l'Assemblée nationale, des budgets austéritaires par 49.3 qu'il fera avaler aux parlementaires, et attendre 2027. Bah, nous, on estime qu'une dissolution réglerait vraisemblablement pas grand-chose. Les projections, c'est à peu près la même Assemblée nationale, ou pire, le Rassemblement national qui augmenterait ses scores et donc aurait plus de députés, et donc qu'il faut abréger un peu la souffrance des gens. Et donc oui, on demande en effet des missions d'institution, enfin, qu'il identifie, comme le font un certain nombre de gens, le fait que c'est lui le problème et que c'est la politique qu'il mène le problème.
On en parlait en première partie. D'ailleurs, on a très peu parlé de Sébastien Lecornu, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attache trop. Et on verra après. Mais en effet, les gens ont identifié que le problème, c'était Macron, et que derrière Macron, le problème, c'est le pouvoir des riches, leur pouvoir d'échapper à l'impôt, mais aussi leur pouvoir du fait qu'on vit dans leur société un petit peu à leurs mains. Donc du coup, ça a cristallisé un petit peu sur la taxe Zuckmann, qui est devenue la chose réclamée maintenant. Ça a plutôt fait consensus. Je voudrais savoir quelle est la position de la France Insoumise. On en discutait, nous, entre nous, en se disant, bon, il y a un effet de cliquet quand même, c'est important, ce truc de taxer les biens professionnels. Mais est-ce que c'est si fou que ça? Est-ce que ça peut pas s'accompagner aussi du budget autoritaire, c'est-à-dire nous donner ça d'une main et faire quand même le budget autoritaire de l'autre? Est-ce qu'on défend jusqu'au bout ou est-ce qu'on... Voilà. Qu'en pense la France Insoumise de cette taxe?
Nous, on est évidemment pour la taxe Zuckmann. On l'a votée dès demain à l'Assemblée nationale quand elle est passée, parce que je rappelle qu'elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle a été enlevée par...
Non, mais... des conditions particulières.
Oui, non, elle est passée. Elle a été adoptée. Donc, il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour taxer de 2% le patrimoine des ultra-riches. Donc, évidemment, on est pour. Là où je rejoins le commentaire que tu as fait, c'est que ça peut pas être ça et puis on avale tout le reste. C'est une évidence. Notre contre-budget, tous les contre-budgets d'ailleurs qu'on a fait, quand on disait un peu plus de justice fiscale, on parle évidemment des milliards que se sont pris les grandes multinationales depuis les 8 ans de Macronie. On parle du patrimoine des ultra-riches. 2%, c'est une taxe. C'est infinitésimal. J'ai vu des projections marrantes qui montraient ce que ça donne sur le salaire normal de quelqu'un de normal. Je veux dire, c'est rien du tout pour les ultra-riches. Donc quand on parle de sommes démentes, il faut aller bien plus loin. Nous, on est aussi pour le retour de l'ISF, mais on est pour plus de justice fiscale, largement. On pourrait faire l'impôt universel sur les entreprises. Donc, c'est clair qu'il faut un paquet fiscal. Cela dit, je suis sceptique sur le fait que même cette miette
soit accordé dans le budget Lecornu. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de voix dans la Macronie qui s'élèvent déjà pour dire c'est quand même beaucoup, faudrait peut-être faire quelque chose de ponctuel, d'un peu sur une assiette plus étroite, etc. Donc même ça, je ne suis pas sûre que ce gage-là soit donné, par exemple, aux socialistes contre un accord de non-censure. On verra bien. Ce qui est certain, c'est qu'on prendra ce qu'il faut, parce que je veux dire, là, on est dans une situation d'injustice sur le partage des richesses qui est à proprement parler, hallucinante dans le pays. Donc voilà, on prendra ça, mais c'est pas suffisant, c'est clair.
Léa ?
Du coup, pour vous, en l'état actuel, il n'y a aucune négociation de possible ? Il faut nécessairement la destitution d'Emmanuel Macron ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de manœuvre, notamment à l'Assemblée nationale, pour essayer de faire passer des choses, ou c'est complètement cuit ?
Alors, on jouera notre rôle de parlementaire. Enfin, moi, comme les autres, on a été élus pour ça. À chaque fois qu'on a l'occasion de voter, malheureusement, c'est trop rare sur les questions budgétaires, mais on vote. Je rappelle, 28-49-3. Enfin, moi, j'ai jamais voté de budget. Je le dis, mais je suis élue depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion, alors que c'est la prérogative normalement des parlementaires et des représentants du peuple. Donc, bref, si on a l'occasion de voter, on le fera. Cela dit, non, je ne crois pas qu'il y ait de négociation possible avec Lecornu. C'est vrai qu'on ne va pas s'y attacher trop. Moi, je pense qu'il ne durera pas, qu'il sera censuré. Et franchement, j'espère que ce sera le plus tôt possible. Parce qu'en fait, il y a aussi quand même un effet de lassitude. On a 3 premiers ministres illégitimes pour mener la même politique. À chaque fois, on a les médias qui, pendant 15 jours, 3 semaines, parfois le plaisir a duré encore plus longtemps, ça a été 2-3 mois, qui nous font le coup de... Il y aura peut-être un premier ministre de gauche, vous allez voir, c'est le changement de cap de la Macronie. Absolument pas. Enfin, Lecornu, c'est son plus proche, ministre des Armées. Il est là pour faire un budget austéritaire et pour financer l'armement et les dépenses militaires, et notamment les 5% de PIB qui ont été octroyés aux dépenses militaires sur ordre de la Commission européenne. Donc, j'ai aucune illusion sur ça. Ce que je vois, c'est un truc relativement minable pour essayer d'arracher une non-censure côté LR et côté Parti Socialiste pour essayer de dégager une majorité autour du bloc macroniste. Je ne sais pas s'il va y arriver, j'espère que non, mais en tout cas, c'est la seule chose qu'il essaye de faire. Donc voilà, il essaye de donner un petit peu de ça, il mettra des promesses et des lois racistes pour le Rassemblement National, et puis il espérera que tout ce petit monde se tienne à carreau. Moi, j'espère qu'il y aura suffisamment de parlementaires pour, dès le premier jour de la session ordinaire, voter la motion de censure que nous, on va déposer assurément.
Peut-être pour revenir très brièvement sur ce projet de destitution. Enfin, parlons avec un principe de réalité. Il y a quand même peu de chances pour que ça aboutisse, on est bien d'accord.
Alors, factuellement, il faut 2/3 de parlementaires pour voter la destitution. Il est clair qu'à l'heure actuelle, j'ai pas le sentiment que 2/3 des parlementaires soient prêts à voter la destitution.
Ce
qui nous intéresse, c'est d'augmenter le niveau de pression. La première, on l'a déposée tout seul. La seconde, c'était il y a une semaine et demie, on l'a déposée avec, je crois, 90 parlementaires de l'ancien NFP, sauf Parti Socialiste, donc des écolos et des communistes. Celle-ci, qu'on vient de déposer, on est 104, soit une majorité absolue au sein de l'ancien Nouveau Front Populaire, toujours sans Parti Socialiste, mais avec davantage d'écolos, davantage de communistes. Donc, on voit quand même qu'il y a une idée qui progresse chez les responsables politiques, et en réalité... pas par hasard, parce qu'elles progressent dans la rue. C'est aussi des gens qui vont dans des manifestations, c'est aussi des gens qu'entendent dans leur circonscription le ras-le-bol et le caractère extrêmement dégagiste de la période, voilà, qui est tourné vers Macron. Donc, et puis pareil, bon, ça c'est pour étudier la gauche. Après, il y a des gens qui, sans doute par opportunisme ou calcul politique pour leur propre chapelle, par exemple, je pense aux Républicains, quand Pécresse dit il doit en effet partir, Jean-François Copé, c'est pas du tout pour les mêmes raisons que nous. Il n'empêche que ça fait un son de cloche qui s'alourdit dangereusement pour lui. En réalité, je pense qu'il le sait d'ailleurs. Enfin, les hommes qu'il a placés comme premier ministre, c'était des fusibles. Ils gagnent du temps et je trouve que c'est vraiment de la politique minable, quoi. C'est vraiment se maintenir coûte que coûte jusqu'à la fin, sans avoir plus aucune ambition pour le pays que finir son œuvre au service des ultra-riches. Voilà.
Safia ?
Pardon.
Alors, non, faut pas s'excuser. Alors, Clémence Guettet, vous parliez de ce moment dégagiste qu'il y a dans la rue, avec une journée du 10 septembre et une journée aujourd'hui qui, à mon sens, est une réussite, tout de même, au vu du nombre de personnes sorties et de l'inquiétude du pouvoir. Et dans la revue Contretemps, aux côtés d'Adrien Clouet, vous plaidez le fait que, de ce mouvement septembriste, comme vous l'appelez, il pourrait y avoir un moment destituant, c'est-à-dire une démission, une destitution d'Emmanuel Macron qui pourrait se reconstituer autour d'un moment constituant, c'est-à-dire d'une élection présidentielle. Sauf que pour vous donner mon avis, c'est que ce mouvement, bien qu'il balbutie, qu'il est à ses débuts, il a une potentialité extrêmement forte par le bas. Il y a de l'énergie. Et je ne pense pas que ce mouvement mérite une élection présidentielle quand on sait qu'il y a une forte contestation du système, qu'il y a une forte contestation du présidentialisme, du Sénat qui n'a aucun sens, qu'il pourrait demander ce mouvement des élus révocables, une assemblée constituante. Est-ce que ce n'est pas couper l'herbe sous le pied aux ambitions de ce mouvement que de demander une élection présidentielle dans le cadre de la Ve République ?
Mais bon, là, vous donnez un avis qui est un avis politique. Mais du coup, qu'est-ce que vous proposez que soit proposé à ce mouvement, justement,
bah, je vous comme pose aboutissement. La question.
Non, mais puisque vous dites la présidentielle, c'est pas la solution politique à apporter au
Safia
mouvement.
Safia nommait notamment
je
une assemblée constituante.
L'assemblée constituante.
Oui, mais ça c'est exactement dans nos propositions.
Mais en fait, ce mouvement pourrait porter cette ambition. Pourquoi est-ce que ça doit passer par une élection présidentielle? C'est ça la question que je vous pose.
Parce que pour passer à la VIe République, de fait, avec Macron, j'y crois très peu. Donc, je refais tout le chemin, et notamment dans la tribune que vous citez avec Adrien Clouet, on estime que en ce moment, il y a eu un très fort dégagisme dans ce mouvement qui est quand même tourné vers le président, pas par, comment dire, c'est pas pour personnifier ou personnaliser l'objet de la colère, c'est parce que dans la Ve République, de fait, c'est le président de la République qui s'octroie énormément de pouvoir, et Macron en plus a usé, abusé de tout ce que permet la Ve République. Qu'ensuite le peuple peut s'instituer, se sentir peuple, et que c'est là qu'il prend conscience de son pouvoir. Et moi, je pense que dans des journées comme le 10, le 18, les gens sentent leur pouvoir comme peuple et les revendications communes qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Et qu'ensuite, il faut un mouvement constituant. Et ça, donc, je rejoins exactement ce que vous dites, c'est que il faut, à mon sens, il faut changer la République et donc la Constitution. Nous, on propose que ce soit fait par une assemblée constituante pour que les gens puissent par eux-mêmes réécrire les règles du jeu, parce que malheureusement, c'est pas une petite révision de la Constitution de la Ve qui va nous faire changer globalement de cadre. Elle a déjà été révisée 24 fois, ce serait de toute façon à la marge. Ce qu'on estime, nous, par contre, c'est que pour passer à cette 6e, il faut passer par une présidentielle, parce qu'on est dans le cadre de la 5e et qu'elle est hyper présidentialisée et qu'on n'arrivera pas à faire de constituante si jamais on passe pas par une élection présidentielle.
Le problème, c'est que moi, je n'ai pas vu un régime s'auto-effondrer de lui-même dans ses propres règles. Pourquoi ne pas donner l'opportunité et l'ambition à ce mouvement de porter lui-même l'Assemblée constituante ?
Ah, mais c'est pas du tout quelque chose auquel on s'oppose. Le fait qu'il y ait des mots d'ordre, d'ailleurs, qui circulent déjà pour la fin de la 5e, pour la 6e République, pour la Constituante, ça rejoint très concrètement ce que nous, on demande. Donc ça nous convient très bien. Après, moi, je suis une responsable politique, je suis par ailleurs élue, je crois dans les élections, je crois dans la révolution citoyenne par les urnes, et je pense que
mais
politiquement...
Mais pourrait y avoir des élections en dehors de la 5e République.
Et je pense que politiquement, c'est exactement ce qui nous différencie, vous et moi, vu là où nous militons réciproquement. Et donc moi, je pense en effet qu'il faut une élection présidentielle pour passer de la 5e à la 6e. Et que sinon, malheureusement, ça n'arrivera pas.
Et donc du coup, concrètement, comment ça se passe? Parce que moi, en 2021, j'avais interviewé Mathilde Panot qui me disait... Bah, c'est simple, Jean-Luc est élu, il s'enlève et puis on fait la constituante. C'est ça qui va se passer? Alors si Jean-Luc Mélenchon est élu, admettons, ou peu importe, au sein de la France insoumise, mais j'imagine bien que ce sera lui qui se présentera, on en discutera après si vous le voulez bien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il est élu, il se casse, il laisse la place à la constituante?
Alors, ce qu'on propose, nous, on a détaillé vraiment ce plan depuis des années. En gros, il y a les élections présidentielles. On les gagne. La France insoumise les gagne. On est en capacité d'appliquer notre pouvoir. On le fait pendant un temps donné, dans les contraintes de la 5e et avec les pouvoirs de la 5e. Donc un gouvernement, un président, etc. Oui, tout à fait. Un gouvernement, un président. On essaye de faire passer le plus de mesures possibles, notamment pour parer aux urgences. Urgence sociale, urgence démocratique, urgence écologique. Dans le même temps, on prévoit un calendrier pour l'élection de cette constituante. Ça peut pas se faire comme ça. Donc ce qu'on propose, c'est qu'à l'été, mettons, c'est 2027 dont on parle, à l'été 2027, il y a le début d'une campagne pour la constituante. On avait imaginé, nous, un système avec des constitutionnalistes et des partisans de la 6e République, mixte, c'est-à-dire il y a une part de tirage au sort, une part de listes, on va dire, de partis politiques ou d'organisations politiques qui veulent former des listes et présenter des candidats. Et les gens, au moment de l'élection pour la constituante, vont voter soit pour tirage au sort, un bulletin de tirage au sort, soit pour une liste d'un candidat auquel il ou elle croit. Et ça détermine la composition ensuite de l'Assemblée constituante, qui ensuite doit travailler On a vu dans les expériences...
Pour garantir la parité sociale, la parité de genre,
fait,
etc.
Ça se fait dans le tirage au sort.
Oui, bien sûr. Mais
oui, il peut tout...
Oui, enfin, il faut quand même
dans les conventions citoyennes, c'est le cas. Oui, oui, il y a des mécanismes, il y a 8 critères qui sont appliqués sur le tirage au sort donc qui permettent de garantir.
Oui, bien sûr. Et y compris parité de genre, c'est quand même le moment de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait.
Oui, c'est ce que je disais, social, de genre, bien sûr. Ouais.
Exactement. Et donc ensuite, il faut laisser le temps à la constituante de travailler. On a vu dans les expériences internationales, nous, on estime qu'il faut 1 an, voire 2 ans. Et ensuite, il y a le référendum d'approbation de cette nouvelle constitution. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes, évidemment.
Et donc en fait, Jean-Luc Mélenchon reste président
pendant les deux ans où on a gagné et où on met en place la constituante. Mais après, on applique notre programme sans tarder, oui.
Et à la mise en place de la 6e, il y a à nouveau des élections.
Eh ben, ça dépend ce que décide la constituante.
Okay.
C'est ça toute l'incertitude de la chose.
Mais sinon, c'était comme ça entre la 4e et la 5e. C'est à peu près l'idée
qu'on revienne aussi, parce que c'est vrai qu'on dit constituante, mais peut-être expliquer aussi un petit peu ce que c'est, ce qu'on disait aussi en conférence de rédaction. C'est-à-dire que la constituante, c'est l'idée d'imaginer de nouvelles manières de produire de la décision publique et de produire de l'acceptation de cette décision publique. Ouais. Et là où je comprends aussi Safia et sa méfiance, qui est dans ces nouveaux processus qu'il faut qu'on trouve, il va falloir, de toute façon, vu l'état de défiance du corps social à l'égard de ces élites politiques, notamment, il va falloir que le politique apprenne à se déprendre. Et c'est dur de faire confiance aux politiques en disant, apprenez à vous déprendre. C'est très, très difficile.
Oui.
Et pourquoi? Parce que, et là, on peut en venir peut-être au dernier bouquin que vous avez sorti avec la Boétie. Parce que j'imagine que l'intuition, c'est que le peuple a changé, le peuple est prêt à prendre une plus grande place. Alors, première question, est-ce qu'on peut imaginer, on parlait de convention citoyenne, d'assemblée citoyenne, convention citoyenne tout à l'heure. Quels pourraient être ces mécanismes, quelles pourraient être ces institutions de la participation nouvelles à créer? Mais j'imagine que vous avez quand même quelques idées en tête et que c'est des choses qui ont déjà été un petit peu réfléchies. Mm-hmm. Et y a des régimes aussi dans lesquels ces processus-là, parce que le processus constituant, c'est un truc qui est très, en Amérique latine, ça se fait beaucoup parfois aussi avec un contrôle du politique. Donc comment nous on peut être assuré aussi que ce contrôle-là sera pas trop prenant, quoi.
Oui, c'est clair que c'est hyper exigeant. C'est sans doute beaucoup plus simple, en tout cas beaucoup plus maîtrisé, de faire ce que fait Macron avec la 5e, c'est-à-dire les décisions solitaires d'un homme seul. Nous, ce qu'on a imaginé, et ça j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans le processus constituant, c'est qu'il y ait aussi des débats au niveau locaux. C'est-à-dire que ce qui a été fait au moment des Gilets jaunes avec les cahiers de doléances, qui ensuite ont été mis dans des petits placards fermés et qu'on continue de réclamer d'ailleurs le fait qu'ils soient examinés, les cahiers de doléances et leur participation ont montré que les gens, si on leur dit à la mairie vous pouvez déposer des revendications dans un lieu identifié, il y a une volonté de participation. Ça a été le cas. Donc nous, on veut aussi qu'il y ait des débats constituants organisés par les communes. Pas que ce soit uniquement quelque chose de porté nationalement, parce qu'il y a en effet cet éloignement. Ensuite, quand je dis on gouverne sans attendre dans le cadre de la 5e, ça veut dire aussi, et d'ailleurs je reviens à votre interpellation, que nous, on voudrait sans attendre faire passer le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui comporterait plusieurs dimensions, des propositions d'abrogation de loi, révocation des élus, y compris parce que ce processus de participation populaire citoyenne revivifié, il est clair qu'après des années où on a creusé la défiance, un éloignement où l'abstention a atteint des niveaux absolument records, il est clair qu'on a retissé des choses de manière très profonde. Et donc, pour en arriver au livre, qui s'appelle donc « Nouveau peuple, nouvelle gauche », l'idée de ce livre, c'était de s'interroger sur le rapport de la gauche aux classes populaires de manière générale. Pour ne pas en rester à des commentaires qui ont très souvent été faits, le rapport Terra Nova, les classes populaires ou les gens, quand ils ont des bas salaires, votent à l'extrême droite, pour essayer de dépasser ces idées reçues.
La France périphérique.
Qui, exactement, l'analyse spatialisée, la fracture territoriale, l'analyse défaitiste, y compris la gauche n'a plus de socle, etc. Des chercheurs comme Vincent Tibéri montrent OK, il y a une droitisation des élites par le haut, mais finalement, le progressisme général augmente plutôt dans notre société. Et donc, de se dire que toutes ces analyses-là, elles devaient être un petit peu approfondies. On a travaillé, et franchement, je suis très fière de ce bouquin, avec 20 chercheurs qui sont des sociologues électoraux, qui sont des historiens, qui travaillent sur différents sujets et qui ont dressé un état des lieux de Qui sont les classes populaires aujourd'hui? Comment elles sont composées? Pourquoi elles ont été extrêmement féminisées, notamment avec la précarisation très très forte des métiers féminins? Comment la domination raciale s'ajoute à la domination sociale, par exemple quand on prend le cas des travailleurs ubérisés ou des intérimaires? Quel est le rapport à l'écologie des classes populaires? Bref, sur tout un tas de dimensions. Le but, c'était d'actualiser un peu notre logiciel et de se dire la classe ouvrière, qui était censée gagner et prendre le pouvoir et arriver à faire en sorte que ce soit la révolution, cette classe ouvrière n'a jamais réellement existé. Il n'empêche que dans un imaginaire socialiste ou marxiste ou matérialiste de manière générale, elle a été énormément mobilisée. On sait aujourd'hui que les ouvriers, c'est pas la plus grosse part des classes populaires. Et que, par ailleurs, la figure de l'ouvrier blanc, homme, qui habite en milieu rural est totalement mythifiée et ne correspond pas à la réalité des gens, encore une fois, qui, de fait, galèrent, sont les victimes du néolibéralisme et auraient un intérêt matériel à voter pour un programme de rupture de gauche qui change leur quotidien et leur vie. Et donc, on a essayé d'actualiser notre logiciel en se disant le matérialisme est toujours notre base idéologique. Il y a un renouvellement toutefois quand même des rapports de production et de reproduction du travail, parce que le travail n'est plus le même qu'il y a 40 ans. Et également, s'ajoute une dimension évidemment intersectionnelle avec l'accumulation des dominations. Je parlais des dominations racistes, mais évidemment aussi sexistes, des dominations néocoloniales, des dominations y compris écologiques, et de se dire que toutes ces dominations se juxtaposent et que à gauche, nier ou hiérarchiser ces différentes dominations conduit de fait, et c'est mon point de vue, à faire le jeu de l'extrême droite ou de l'extrême droitisation de la société.
Et comprendre mieux le corps social, c'est produire de meilleures revendications, de meilleures stratégies.
De fait, une organisation politique, si elle n'est pas en prise avec à qui elle compte s'adresser, enfin, c'est ça, en fait, notre réflexion, c'est à qui on s'adresse et donc quels sont les besoins des gens qui doivent être répondus par nos propositions politiques. Voilà, et donc c'est l'ambition de ce livre-là, qui sera suivi par d'autres, qui est aussi un prétexte militant, parce que, comme pour le premier livre de l'Institut Labo ici, moi je vais aller le présenter dans des circonscriptions tenues par le Rassemblement National, et que la dernière fois on a fait 70 réunions publiques avec un livre, et qu'en fait ça donne aussi un prétexte de discussion.
On a des questions à vous poser d'ailleurs sur les élections municipales, mais je voudrais revenir sur la 6e République, parce qu'on voit bien qu'il y a en ce moment à gauche un clivage qui est assez ancien entre une gauche plutôt radicale et une gauche plus progressiste, une gauche progressiste incarnée par le Parti Socialiste, qui joue le jeu du compromis, de la discussion et du dialogue parlementaire, on les a vus avec le Cornu, et une gauche plus radicale qui est sur une thématique de rupture, incarnée par la France Insoumise, qui ne veut pas négocier son programme sur lequel il a été élu. Pour vous, dans une 6e République, c'est quel type de parlement qu'on doit avoir? Est-ce que c'est le retour aux hégémonies qu'on a connues sous la 5e? Est-ce que c'est plutôt 4e République avec plein de groupes qui doivent forcément se mettre d'accord? Comment vous voyez...
Avant de répondre à votre question, je vais quand même répondre à votre commentaire.
Ouais, dites-moi.
Parce que je ne le partage pas exactement.
Ah ouais
déjà, moi, j'estime être aussi membre d'un parti progressiste. Enfin, je veux dire, les deux ne sont pas antinomiques.
Mais je ne sais pas pourquoi tu as dit progressiste.
J'ai dit progressiste.
Tu voulais dire réformiste, je pense.
Non, réformiste.
Oui, bah, t'as
ah,
dit
oui,
progressiste.
Ah,
j'ai dit progressiste.
Ah,
parce que tu voulais dire réformiste.
Autant pour moi, je voulais dire réformiste pour le PS.
En
parlant du PS.
Oui, par ailleurs. Mais
évidemment que la France Insoumise est progressiste, bien sûr.
Oui, oui, on est progressiste aussi. Et en fait, le deuxième commentaire que je voulais faire.
Clarifie les choses.
Sur votre commentaire, c'est que les socialistes aussi ont été élus sur le programme de rupture dont vous parlez. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils le renient et que nous, on le
tient. Ils le renient pas, ils le négocient. Enfin, ils essaient.
Ah non, ils le renient complètement. Est-ce que vous avez regardé le contre-budget du Parti Socialiste, présenté il y a deux semaines. Alors dedans...
Il reprend une partie du programme du
NSP. Une petite partie, hein, parce qu'il n'y a plus l'abrogation de la réforme des retraites, il n'y a pas l'ISF climatique, il n'y a pas l'augmentation des petites pensions, il n'y a pas l'indexation du point d'indice des fonctionnaires, il n'y a pas le SMIC à 1600 euros. Il y a 5,4 milliards reniés sur les agences de l'État. Alors non, moi j'étais fière du programme qu'on avait porté avec le nouveau Front Populaire. Je pense que c'était ambitieux. Je ne veux être associée d'aucune façon au contre-budget, par exemple, socialiste. Non mais c'est pas seulement mon point de vue, c'est que ça n'a rien à voir avec ce sur quoi ils ont été élus il y a un an. En fait, je déplore...
C'est toujours négociable une fois qu'on est aux responsabilités.
Mais c'est négociable une fois qu'on est devant le Parlement.
Oui.
C'est-à-dire qu'on accepte de perdre des votes, tout simplement. Ça, c'est la démocratie. Aller devant un Premier ministre qui n'est pas de notre camp politique et je veux dire, on dit négocier le poids des chaînes, mais pour moi, c'est réellement ça. C'est aller dire, voilà les mesurettes d'après lesquelles nous ne vous censurerons pas. C'est pas notre rôle. On est dans l'opposition politique. Donc, bon, je suis pas au Parti Socialiste. Donc
j'ai bien compris.
Ils font exactement ce qu'ils veulent, mais ce que je veux dire quand même, c'est juste que vraiment, on est devant un reniement. Et c'est pas des querelles interpersonnelles. Il y avait un extrait de ma discussion un peu musclée avec Philippe Brun. J'ai rien contre Philippe Brun personnellement. C'est une discussion éminemment politique.
C'est politique, bien sûr.
Ce que je lui reproche, c'est de renoncer et de trahir des gens qui lui ont fait confiance
il y a
un an. Mais
qu'est-ce que vous pensez de la place du compromis dans une démocratie? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce qu'il faut passer outre?
En fait, on s'est habitué à des choses qui sont totalement anormales. Le grand cycle des négociations pré-formation d'un gouvernement... où tous les partis politiques défilent, font leur liste de courses et où le Premier ministre essaye de trouver un équilibre, ça n'est pas le fonctionnement prévu par la Ve République. Hein. Normalement, le Premier ministre, il forme son gouvernement sur la base de sa propre nomination par le Président de la République, il propose une politique et ensuite il l'accepte.
Ça dépend de s'il a une majorité ou pas.
Il accepte des défaites à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que la Macronie, triomphante en 2017, a commencé avec un rouleau compresseur de plus de 300 parlementaires. Et qu'ils ont pris la fâcheuse habitude d'avoir une majorité absolue, que tout passe, et de ne jamais accepter le fait qu'il puisse y avoir des majorités alternatives sur d'autres choses. Parce qu'en fait, franchement, je n'aime pas du tout le discours qui consiste à taper sur l'Assemblée nationale parce qu'il serait, y a en effet trois blocs relativement nets dans les votes. Mais je veux dire, en l'occurrence, il y a eu une dissolution, on l'a acceptée, on s'est présenté devant les Français et ça a donné ça.
C'est pour ça que
je déplore qu'il y ait autant d'élus RN, évidemment.
C'est pour ça que je vous pose la question sur la 6e République que vous imaginez. Parce que j'ai l'impression que vous, par exemple, le système allemand n'est pas du tout un système qui vous plaît.
Bah, c'est un système de coalition.
Exactement.
Qui met aujourd'hui l'AFD à environ plus de 20%, je crois. Je pense que c'est pas une solution, en tout cas face à la montée de l'extrême droite, par exemple.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, d'ailleurs, que ce modèle des démocraties libérales, avec leur parlement, leur classe politique, leur manière de composer des gouvernements, etc., là, il est soumis à des chocs, à des tensions énormes. Il nous amène à l'extrême droite dans plein de pays. Est-ce que c'est avec ce sentiment d'urgence que vous dites, mais même oublions aussi, repensons, mais de la cave au grenier, comme on pourrait dire,
les institutions en entier,
quoi.
Bien sûr. Alors nous, pour la 6e République, juste pour répondre à votre question, et c'est lié à celle-ci aussi, nous on présentera une liste dans le cadre de la Constituante. Je ne peux pas vous dire ce que sera la 6e République, ce serait parfaitement antinomique avec la façon dont je l'ai présentée juste avant. Ce que nous on proposerait à la France Insoumise, par exemple, on estime que le Sénat n'est pas une institution représentative des Français aujourd'hui. Les grands électeurs, ce système-là, les circonscriptions qui ont été taillées, les gens ne comprennent même pas, je pense, cette élection. Je vous donne mon avis très franc sur le Sénat. Je pense que l'Assemblée nationale a évidemment toute son importance. Je pense que le monarque présidentiel devrait largement perdre du poids dans une 6e République. Donc j'aurais des propositions à faire en matière d'institutions. Toujours est-il que dans le cadre de la 5e, je le redis, le problème des macronistes, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être minoritaires. Et que donc... ils sont allés utiliser tous les outils à leur disposition. J'ai parlé des 49-3. Mais il y a eu des choses, c'est de la tambouille parlementaire peut-être, mais ce qu'ils ont fait sur la loi Duplomb, par exemple, c'est-à-dire de rejeter leur propre texte pour espérer avoir un texte du Sénat, puis une commission mixte paritaire où nous sommes minoritaires et donc où eux sont majoritaires, pour faire un texte de régression environnementale, etc., c'est contourner totalement le Parlement. Et je pense que ça participe du dégoût des gens. Ils se disent évidemment, à quoi bon aller voter? Mon rôle, moi, c'est de leur dire, gardez confiance, on se bat pied à pied, surtout on ne renonce à rien, surtout dans la position dans laquelle nous sommes. On est l'opposition.
Mais vous, dans la situation de Macron aujourd'hui, vous feriez quoi?
Ben, j'espère que je ne serai jamais dans la situation de Macron,
après huit ans de brutalité. Admettons, vous arrivez à être élu, vous êtes au gouvernement, vous êtes peut-être première ministre, que sais-je, présidente, allez, pourquoi pas. Et puis, vous arrivez effectivement face à cette Assemblée nationale qui ne vous soutient plus tout à fait, avec des, comme vous disiez, ces trois blocs. C'est très difficile de faire passer les choses. Vous voulez quand même faire passer des choses, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais vraiment, je me pose la question. Et c'est pas une question qui piège ou quoi que ce soit. Hein.
Non, je comprends très bien. Psychologiquement, j'ai pas envie de me projeter dans Emmanuel Macron. Mais je vais faire abstraction du personnage.
Vous êtes président de la République,
pas Emmanuel Macron. Et me dire, face à cette situation, lui, qu'est-ce qu'il devrait faire? La moindre des choses, me semble-t-il, quand on convoque une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ensuite de respecter la représentation qui est à l'Assemblée nationale. Et donc, ça veut dire que non, il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour faire le budget qu'il voudrait présenter initialement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas non plus de majorité en réalité pour la loi Dupont. Il n'y avait pas non plus de majorité pour la réforme des retraites.
Donc vous, auriez nommé un premier ou une première ministre NFP ?
Ah ben je pense que c'est comme ça qu'a été conçue la Ve République, oui, c'est clair. Et d'autres l'ont fait avant, je veux dire, les cohabitations, ça a existé, voilà.
Et en même temps, c'est la
bagarre.
Et c'est
pour ça qu'on sait ce qu'on demandait à l'époque, d'ailleurs.
Et en même temps, c'est la bagarre. C'est-à-dire que quand on est Premier ministre, on a aussi quelques pouvoirs de décret, de nomination.
Bah oui.
Voilà.
Donc attendez, mais quand même, c'est dingue.
Des erreurs, enfin, parfois, la gauche, et puis même dans d'autres pays, n'utilise pas tout ça, tous les pouvoirs qui sont pour garder le fair play que n'auraient pas eu ses adversaires. Donc là, l'idée aussi d'aller au Premier ministre, c'est qu'il y a plein d'opportunités aussi. L'idée serait de jouer à fond. Moi, je pensais au fait que, pour revenir sur cette constituante, parce que je commence de plus en plus à être persuadé que c'est la seule issue honorable pour ce pays. Mais, mais comment, par exemple, tu fais une constituante dans un pays pourri par les médias de l'extrême droite, etc. Et donc je conçois en effet que prendre le pouvoir pour installer des bonnes conditions pour faire la constituante, parce que c'est pour se retrouver avec des constituants, donc les gens qui seront tirés au sort, menacés de mort chez eux, de je sais pas quoi. La montée de l'extrême droite, c'est ça aussi.
Oui, mais une excellente... Pardon.
Non, mais j'allais dire, regarde les conventions citoyennes. Les conditions du débat médiatique sur la question climatique étaient dégueulasses. Et pourtant, les citoyens tirés au sort, ils ont fait un assez bon travail.
Mais ça revient aussi à ma remarque de tout à l'heure, hein, pardon. Hein. Mais ça revient aussi à ma remarque de tout à l'heure.
C'est une interview, quand même. Vas-y.
On discute.
On va vous laisser la parole. Non, mais ça revient à ma remarque de tout à l'heure, où par exemple, sur la question, on pourra enchaîner là des questions plus sur le Rassemblement National, comment vous voyez les choses, etc., évidemment. Mais c'est aussi dans des périodes de mouvement social où le Rassemblement National n'ont rien à dire sur ce qu'il se passe. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous posais la question, mais envisager aussi une sortie du régime et une assemblée constituante dans le cadre d'un mouvement social qui est certes assez balbutiement, c'est pas inintéressant dans la mesure où les éléments les plus réactionnaires n'ont pas leur mot à dire. Voilà, c'était une remarque, je la referme. Mais
je trouve que c'est une question intéressante parce que, par exemple, au Chili, c'est typiquement une situation qui nous a évidemment beaucoup interrogés, puisqu'on est partisans d'une constituante et du passage à la sixième. Il y a eu une constituante, les gens ont commencé à travailler, etc. Et puis, il y a eu ensuite... Et pendant ce temps, il y avait une co-gestion, on va dire, une grande coalition avec des anciens partis très... disons que la dimension dégagiste et anti-système qui avait mené à faire une constituante n'était pas du tout représentée dans le gouvernement qui continuait de gouverner le Chili. Donc un dégoût qui continuait d'augmenter, une désadhésion populaire plutôt vis-à-vis de la constituante, et puis ensuite une campagne au moment de voter la constituante. Il y a eu 1,7 million qui a été mis pour la campagne contre la nouvelle constitution, et environ 3 ou 4 fois moins pour la campagne pour. Et financé évidemment par des forces réactionnaires, etc. Donc, il est clair que les influences, qu'elles soient médiatiques ou financières, enfin, on voit le système Bolloré, Sterrin, etc. C'est clair qu'il y a à penser des garde-fous démocratiques pour faire en sorte que, si on arrive à mettre en place une constituante, elle puisse travailler dans de bonnes conditions et que le processus puisse aller à son terme. Mais je ne dis pas que c'est pas des questionnements qui existent, mais ça veut dire qu'il faut se poser ces questions-là et faire en sorte que ça puisse advenir quand même.
Et qu'est-ce qu'on peut faire à Matignon contre le groupe Bolloré immédiatement?
Ah bah on peut quand même proposer une loi anti-concentration des médias, par exemple. Donc faire en sorte qu'il n'y ait pas 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. On peut aussi renforcer les moyens de l'ARCOM pour traiter les signalements de racisme, de sexisme à la télévision. Il y a eu des chaînes qui se sont fait fermer leurs fréquences. Ça peut réarriver pour celles qui dépassent très régulièrement la loi, en réalité. Donc il y a quand même des choses à faire, évidemment.
La destitution du président de la République, je suis comme Léa, j'y crois assez peu, mais j'ai bien compris ce que vous disiez sur le fait que le but c'est de faire monter la pression. Ce qui est par contre plus probable, c'est un départ de Lecornu d'une manière ou d'une autre et une dissolution dans la foulée. En cas de dissolution, c'est quoi votre stratégie? J'ai entendu que vous proposiez une fédération, c'est ça, aux autres partis de la gauche?
Une offre fédérative.
Une offre fédérative, voilà.
À destination de toutes celles et ceux qui veulent continuer de respecter le programme du nouveau Front Populaire sur lequel on a été élu il y a un an.
Donc il n'y aura plus d'alliance avec le Parti Socialiste
Ce sera à lui de nous dire si finalement il renie le document qu'il a produit il y a 2 semaines, si finalement il ne voulait pas aller au gouvernement avec la majorité macroniste et LR. Bon, j'avoue que beaucoup de choses politiquement se sont accumulées ces dernières semaines pour que je sois assez sceptique sur... Je pense qu'il y a eu, il y a eu aussi des déclarations relativement définitives de certains responsables du Parti Socialiste. Je pense à Boris Vallaud qui après, a dit plus jamais avec oui, LFI.
La NUPES après... était morte et puis il y a eu le NFP.
Oui, mais Johanna Roland qui a été quand même assez partisane parce du que... Nouveau Front Populaire qui a dit plus jamais d'accord programmatique. Bon, je parle pas des, comment dire, de l'opposition à Monsieur Faure qui n'a jamais eu de mots très agréables à notre égard et qui était déjà contre le NFP à l'époque. Mais oui. J'ai le sentiment que le Parti Socialiste, en vue d'une présidentielle, se réaligne quand même idéologiquement avec
François Hollande.
François Hollande, une forme de socialisme.
Pourtant, c'est Olivier Faure qui a gagné le congrès.
Si on en croit des offs un peu gênants, s'aligner derrière Glucksmann, enfin, je ne sais pas, mais visiblement, idéologiquement, ils prennent une option qui n'est pas celle de travailler avec la France Insoumise.
Mais si la France Insoumise et le Parti Socialiste ne sont plus alliés dans des élections législatives, ça risque d'être une mauvaise nouvelle pour le PS, c'est à peu près sûr. Pour la France Insoumise aussi, ça peut être une mauvaise nouvelle. En tout cas, ce serait une très bonne nouvelle pour l'extrême droite et Jordan Bardella. La semaine dernière, on recevait Alexis Corbière, qui est devenu un unioniste convaincu, qui nous expliquait que face au danger de l'extrême droite, c'est là qu'il faut faire des unions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Mais sur ce point, notre position, elle est très claire. C'est qu'en fait, l'union ne peut pas être faite n'importe comment, à n'importe quel prix, et en disant, enfin, en faisant n'importe quelle proposition. Sinon, et je pense même que, en fait, ce qui est le pire, c'est que c'est contre-productif. C'est-à-dire que si on dit l'extrême droite est puissante, c'est clair, elle l'est électoralement dans notre pays et idéologiquement. L'extrême droite est puissante. Face à ça, on s'allie dans n'importe quelles conditions et en proposant à peu près n'importe quoi aux gens que finalement on renierait un peu plus tard. Moi, je suis persuadée, et c'est d'ailleurs l'objet du livre aussi, que ça provoque de la désaffection, que ça provoque in fine de l'abstention et que ça provoque in fine la montée de l'extrême droite. Donc je suis persuadée que l'union à n'importe quel prix... Sans un socle idéologique, et en l'occurrence, moi, je veux que ce soit un socle idéologique de rupture, parce que je pense que les dernières élections, quand elles étaient de masse, comme les élections présidentielles, et que l'abstention était un peu moins forte qu'aux dernières élections, je pense qu'aujourd'hui, le rapport de force et le barycentre de la gauche, les envies, elles sont sur un projet de rupture. Elles ne sont pas sur des réformettes du bilan Hollande. Je veux dire, il y a un traumatisme pour des gens de gauche qui ont pu voter Hollande en 2012. C'était pas il y a 40 ans. Les gens se souviennent de la déchéance de nationalité, de la loi El Khomri, de la casse des services publics, de Macron ministre de l'économie. Donc, faut pas prendre les gens pour des amnésiques politiquement. Je pense qu'il y a ce vrai dégoût qui a mené Madame Hidalgo à 1,72%, je crois, à la dernière élection.
C'est une question d'incarnation.
Mais non, c'est pas une question d'incarnation, c'est une question de ligne politique. Mais vous êtes persuadé que c'est une question d'incarnation?
Je pense que ça en fait partie, que l'élection présidentielle se joue en grande partie sur l'incarnation.
Le PS a pris cher, hein, franchement.
Je pense que c'est une c'est une déception et un désaveu profond pour une gauche d'accompagnement qui a trahi tous ses engagements qu'elle avait pris pendant sa campagne. Voilà, je pense que c'est éminemment politique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Madame Hidalgo.
Pourtant, aux européennes, il y a eu une sorte de rééquilibrage.
Et oui, mais avec une abstention différentielle, et notamment des milieux populaires, extrêmement forte. C'est-à-dire que les élections européennes, c'est encore des élections où il faut beaucoup s'intéresser à la vie politique. Le Parlement européen, c'est une institution qui a l'air encore plus éloignée que les autres. L'abstention, elle n'est pas lissée sur l'ensemble des catégories socio-professionnelles au hasard. Les riches, les bourgeois et les gens plus de droite votent bien davantage aux élections européennes qu'aux élections présidentielles, par exemple.
Jules ?
Non, j'avais rien de j'ai écouté. J'ai déjà assez parlé.
Léa, vas-y.
Municipal, peut-être ?
Oui, municipal, vas-y.
Allez, tu veux introduire ?
Non.
Si, tu veux faire ton boulot un peu.
Grève peut-être.
Les élections municipales en 2020 suivaient le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, la stratégie de la France insoumise, c'était d'apporter son soutien massif à des listes citoyennes. On a vu que le résultat n'avait pas été à la hauteur des espérances. Quelle est votre stratégie pour ces élections municipales de 2026
et quid, je complète la question si tu veux bien, quid des alliances localement?
Alors, en effet, en 2020, c'était des élections municipales pour tout le monde en plein Covid, extrêmement compliquées, là aussi avec un taux d'abstention qui était très difficile pour les forces politiques qui espèrent faire venir les classes populaires aux urnes. Cette parenthèse refermée, en effet, stratégiquement, il y avait une différence qui tenait aussi à la maturité de notre organisation. La France Insoumise était un mouvement qui avait 3 ans. Maintenant, on en a bientôt 10. On a essayé de se structurer et de se préparer différemment pour celle-ci. On a essayé de poser la discussion, notamment avec les partenaires qui étaient dans le NFP, sur des bases programmatiques, histoire de pas... Nous, contrairement à d'autres formations politiques, on peut avoir des décisions nationales. C'est-à-dire que c'est pas à Pétaouchnok, c'est on fait comme ça et puis on fait complètement l'inverse dans une autre ville. On estime qu'il faut une visibilité nationale, donc des listes qui soient sur le même périmètre politique. Donc on a posé la discussion sur la base de garanties programmatiques, qui étaient en gros des exigences où on disait bah, s'il y a des élus insoumis, citoyens et peut-être autres partis politiques, il faut qu'ils s'engagent à respecter un minimum de propositions et à essayer de les mettre en place une fois qu'ils seront dans ces conseils municipaux. Je vous donne un exemple. Par exemple, le RIC, on en a parlé tout à l'heure. Le RIC, au niveau municipal, il est possible à mettre en place. C'est une possibilité prévue par la Constitution. Et ça permet déjà, à un niveau extrêmement local, de retisser cette confiance dont on parlait juste avant. Ou les cantines bio et gratuites, ouais, par
là
exemple.
Là, on est plus sur le fond, mais du coup, sur la stratégie, effectivement.
C'est justement lié. C'est-à-dire que les discussions qu'on a avec tous les potentiels partenaires politiques,
c'est sur la base,
de ces garanties programmatiques.
Et donc, dans les grandes villes, là, donnez-nous un peu d'éléments, parce qu'on est quand même là ce soir pour avoir des infos.
C'est vrai qu'il fallait que j'ai des scoops pour les municipaux.
Laissez-nous quand même au moins un peu de ça. C'est ça, Baxit, c'est l'émission des scoops du jeudi soir. Un petit scoop, s'il vous plaît, Clémence Guettet. Comment ça se joue dans les grandes villes, par exemple? Est-ce qu'il y a quelles sont les discussions?
Vous
serez candidate?
Moi, je ne serai pas candidate, non. Peut-être que c'est un scoop, ça, d'ailleurs.
Ah, voilà, on a
jamais
ça,
posé
on
la question,
quoi.
Je crois.
On a
non, moi, j'ai déjà un mandat et je vais m'y cantonner.
Est-ce que vous allez bien, Clémence Guettet?
Ça va très bien, merci. C'est vraiment atroce. Dans les grandes villes, la plupart des configurations, soit c'est des villes qui sont tenues par la droite, et dans ce cas-là, on arrive à avoir généralement des alliances citoyens, LFI, voire Parti communiste, voire Europe Écologie Les Verts.
Pas de PS.
Généralement pas de PS.
Ah, ouais.
Vu le contexte national, en ce moment, c'est compliqué. Et ensuite, il y a des villes tenues par le Parti socialiste ou des villes tenues par les écologistes. Et suivant la façon dont ça s'est passé, généralement, on est dans l'opposition, nous, France Insoumise. Donc, on a des listes qui se composent en face. Voilà.
OK.
Bon, pas de scoop en fait.
Non, mais
Bon.
J'avais pas fait de promesse moi.
Usul.
Ouais, non, je vais l'inverse du. Je vais élargir. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est qu'il y a des choses qui vont devoir se dénouer là dans pas longtemps. Que ça va être en effet soit le socialisme, soit l'extrême droite. Mais que, là, il y a une urgence. Le moment est révolutionnaire. Le moment est révolutionnaire ou le moment dans l'autre sens aussi quoi. Là-dessus. Et l'Union européenne qui est ballottée entre le trumpisme d'un côté, Poutine qui fout la pression de l'autre. Dans les deux cas, ça sponsorise plutôt l'extrême droite d'ailleurs, et c'est plutôt ce qu'on voit aussi, y compris en Angleterre, en Allemagne, chez nos voisins. Comment est la gauche européenne? Est-ce qu'elle est prête à ce moment? Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des solidarités? Et si possible, une stratégie?
Et un scoop.
et quelle est du coup l'attitude à avoir aussi avec au Parlement européen.
Oui, c'est clair que l'ambiance réactionnaire dans l'Union européenne, dans les pays de l'Union européenne est extrêmement forte. Et prenons comme base de la discussion de cette inquiétude que je pense on partage, le fait que ça menace des vies très concrètement, les personnes racisées, les personnes LGBT, les femmes, les droits des femmes évidemment, et que donc c'est face à ça qu'il faut essayer de s'organiser. Moi, c'était une interrogation que j'ai eue très fortement le semestre dernier. C'est pour ça que j'ai fait une tournée de pays européens. Je suis allée dans pas mal de pays européens, Portugal, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie et d'autres, pour rencontrer justement des camarades dans ces pays-là et voir la façon, enfin, déjà dans quel niveau de forme ils sont, parce que dans certains pays c'est très dur. Je pense à l'Italie par exemple. Bon, quand vous êtes opposant de Meloni et nos partenaires à nous, ils sont pas très en forme électoralement. Il y a d'autres pays où quand je dis « on », c'est des partis frères, on va dire, sont beaucoup plus en forme. Je pense par exemple à la Pologne, où en fait, il y a un mouvement de gauche radicale qui est assez fort face à la droite ou à l'extrême droite. Dans des pays aussi du Nord, il y a des partis de gauche radicale qui sont très en forme. Et donc, je suis allée les rencontrer pour qu'on partage nos enseignements sur la période, comment l'extrême droite s'organise, nationalement, mais aussi au sein de l'Union européenne. Et on a essayé de se doter de moyens un peu en miroir, on va dire, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers, c'est clair. Musk et d'autres financent l'extrême droite européenne. Ils y mettent largement des billes à dessein pour leur donner de la force, justement. Mais donc, comme nous, on n'a pas ces financements, il faut qu'on redouble d'organisation. C'est pour ça qu'on a lancé l'année dernière un nouveau parti de la gauche européenne qui a eu son premier congrès à Porto au mois de juin de cette année, où je suis allée. Il y a 7 partis fondateurs, 2 membres observateurs à cette heure, tout...
The Left, c'est ça?
Non.
C'est
l'Europe
Alliance.
Ah oui.
Et là, c'est okay. L'Alliance de la gauche européenne. Et donc, on essaye de renforcer nos liens et de bosser encore davantage ensemble. C'est par exemple pour ça qu'on a fait l'initiative citoyenne européenne, celle qui avait été très réussie sur l'avortement. Mais donc, on a fait le même mécanisme sur Gaza et sur la demande de la fin du génocide pour essayer de mettre une pression coordonnée. C'est pour ça aussi que intellectuellement, on va travailler ensemble dans le cadre d'une fondation. Parce que l'extrême droite s'organise aussi idéologiquement. On parle beaucoup des désaccords à gauche qui existent. En fait, l'extrême droite, y compris au sein de l'Union européenne, a beaucoup de désaccords idéologiques, mais alors, ils ont réussi à se mettre d'accord sur l'immigration et le problème, et ils ne parlent que de ça quand ils sont ensemble, alors même que parfois, ils mènent des politiques quasiment contradictoires dans leurs pays respectifs. Et donc, à gauche, on doit aussi parler de nos points d'accord et de la façon dont on avance chacun.
Et s'il y avait un point d'accord, ce serait lequel ?
Dans nos pays respectifs. Bah, franchement, la fin du génocide à Gaza, en tout cas pour notre camp, c'est un point d'appui très évident, notamment parce que au Parlement européen, il y a beaucoup d'élus qui siègent ensemble dans le même groupe, qui se connaissent et qui ont à lutter contre von der Leyen, son inaction, le fait qu'il ne rompe pas l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, justement. Donc c'est clair que là, en ce moment, on est tous extrêmement mobilisés là-dessus. Mais après, il y a plein d'autres questions. Par exemple, avec les camarades espagnols, j'ai beaucoup parlé de la question du logement, qui est une vraie crise en Espagne, qui est une vraie crise aussi en France, et dans plein d'autres pays. Mais donc, eux, ils ont, par exemple, organisé des assemblées de locataires. Enfin, il y a aussi des choses qu'on peut dupliquer. Et je pense que c'est intéressant.
On réinvente pas l'eau chaude.
Exactement.
On pourrait réinventer l'eau chaude, mais on va devoir s'arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup, Clémence Guettet, d'être venue sur le plateau de Backseat et d'avoir répondu à nos questions.